Frères et sœurs, nos frères et sœurs, justement, qui sont actuellement à l'Assemblée du désert, sont réunis autour du thème « Dieu parle ». Dieu parle parce que c'est ainsi que le réformateur Jean Calvin envisageait de commencer cette confession de foi qui deviendra la confession de foi de La Rochelle. Dieu parle. Et le pasteur Marcel Manoel, président du Conseil national, doit donc, à l'heure actuelle, prêcher sur le début du livre d'Ésaïe, dont un verset a été retenu pour accompagner toute cette journée près du mât Soubéran. Pour ma part, j'ai retenu ce thème qui nous permettra d'être en quelque sorte en communion avec cette assemblée du désert, mais en privilégiant un autre texte, où Dieu parle également. C'est dans le premier livre de la Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 28, un récit qui met en scène Jacob. Au chapitre 28 du livre de la Genèse, je vais vous lire les versets 10 et suivants. Jacob, donc, partit de Beer-Sheba et s'en alla à Haran. Il atteignit un endroit où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit l'une des pierres de l'endroit. Il la plaça sous sa tête et il se coucha à cet endroit. Il eut un rêve. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre et son sommet touché au ciel. Et les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Or, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera innombrable, comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce territoire. Car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. » Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, « Certainement, l'Éternel est présent dans cet endroit et moi, je ne le savais pas. » Il eut de la crainte et dit que cet endroit est redoutable. Ce n'est rien moins que la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête, il l'érigea en stèle et versa de l'huile sur son sommet. Il donna le nom de Bethel à cet endroit, ce qui signifie « maison de Dieu ». Mais la ville avait porté le nom de Luz jusque-là. Seigneur, ta parole est la vérité, alors sanctifie-nous par la vérité. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à prendre votre recueil de chants, louanges et prières pour chanter le cantique 213. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Et levons-nous pour chanter ce cantique 213.
Thank you.
Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ta parole, Dieu notre Père. Elle ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté et accompli avec succès ce pourquoi tu l'as envoyé. Nous te prions pour que ce matin, elle vienne une nouvelle fois arroser et féconder notre terre, pour qu'elle fasse germer en nous la foi, l'espérance et l'amour, pour qu'elle soit semence pour toute notre vie et nourriture sur notre route. Chers frères et sœurs, je ne sais pas si c'est l'évocation du président de notre Conseil national qui m'a inspiré, mais j'aimerais ce matin commencer par vous rappeler le début de notre règlement intérieur, notre discipline, la discipline de l'Église réformée de France qui, en son article 1, au titre 1, stipule, je cite, « L'Église réformée de France » professe qu'aucune église particulière ne peut prétendre délimiter l'église de Jésus-Christ, car Dieu seul connaît ceux qui lui appartiennent. Fin de citation. C'est plutôt réjouissant comme phrase, ne prenez pas cette mine affligée. Voilà une conviction qui, pour sa part, s'appuie sur le texte biblique que nous avons lu. Au moment où il s'arrête pour se reposer, Jacob, dont on a peut-être une image un peu idyllique, vient de fuir la maison familiale en ayant arraché à son père Isaac la bénédiction qui, en principe, aurait dû revenir à son frère Ésaü. Le Jacob qui va s'endormir là est un voleur, rien de moins. Jacob va s'endormir sans famille, sans richesse, sans emploi, et la conscience lourde d'avoir trompé son père en se faisant passer pour son frère. Jacob est un homme dont personne ne voudrait dans sa famille, à vrai dire. Jacob, c'est ce genre de fils qu'on préférerait oublier, rayer de l'arbre généalogique. Vous savez, celui dont on ne voudrait plus trop parler dans les réunions de famille, celui qu'on oublie négligemment, et bien sûr on ne pense qu'à lui. Jacob, peut-être celui à qui on ne voudrait plus adresser la parole, celui qu'on ne saluerait plus, celui qu'on ne regarderait même plus s'il est un membre de notre communauté ecclésiale. Jacob, une figure de traître, une figure de renégat, celui qui, par sa conduite, s'exclut automatiquement de la communauté et qui doit fuir au loin. Et pourtant, cette nuit-là, c'est lui que Dieu vient visiter. Ce n'est pas Isaac, ce n'est pas Ésaü que Dieu vient voir, c'est Jacob le scélérat. Dieu vient discuter avec Jacob, malgré son indignité, malgré le mal qu'il a commis. Lui qui mériterait vraiment d'être excommunié, eh bien lui reçoit la visite de l'Éternel. Et l'Éternel ne vient pas pour le punir. Il ne vient pas pour le châtier. Il vient pour lui promettre que jamais il ne l'abandonnera, qu'il ne le lâchera jamais, mais qu'il sera là, toujours, pour l'aider au quotidien, pour l'accompagner jusqu'au jour où il pourra enfin s'arrêter de fuir et pourra s'installer tranquillement et vivre heureux avec sa future famille. Premier étonnement peut-être, l'Éternel n'est pas seulement le Dieu des justes. Il n'est pas seulement le Dieu de ceux qui marchent dans les clous. À vrai dire, l'Éternel n'est même pas seulement le Dieu de ceux qui respectent scrupuleusement sa parole. L'Éternel n'est pas seulement le Dieu de ceux qui ne font jamais de vagues en Église. Il est aussi le Dieu des fourbes, le Dieu des escrocs et des crapules. Que ce ne soit pas une excuse pour le devenir à votre tour. Mais force est de constater que l'Éternel est aussi le Dieu des personnes dont on imaginerait bien qu'elles ont pourtant perdu le droit d'être aimées de Dieu. Premier étonnement provoqué par ce texte, Dieu vient à nous malgré notre indignité. Dieu parle aussi aux indignes. Comment vient-il à la rencontre de Jacob ? D'une façon bien curieuse, à l'occasion d'un songe. Jacob voit une échelle qui est tendue entre la terre et le ciel, demeure symbolique de Dieu, et il voit des messagers de Dieu, qu'on appelle des anges, qui montent et qui descendent sur cette échelle. Ils vont et ils viennent. Marc Chagall, peignant cette scène, va affubler ses messagers d'une paire d'ailes. Et bien d'autres peintres le feront également. Mais c'est un détail, bien sûr, qui n'appartient pas au texte biblique. Il appartient aux stéréotypes. Quand on veut représenter un messager de Dieu, un ange, on lui met une paire d'ailes. C'est une manière de dire que c'est un messager de Dieu qui fait le lien entre nous, ici-bas sur terre, et Dieu, symboliquement, métaphoriquement, au ciel. Mais à vrai dire, la Bible ne nous parle jamais des anges comme de personnages extraordinaires. Ce n'est pas un pasteur qui vient voir Jacob. Ce n'est pas un conseiller presbytéral qui vient voir Jacob. Ce n'est pas un diacre. Ce n'est même pas un paroissien. Et ne pensez pas que après l'échelle de Jacob, je mette en place l'échelle paroissiale qui irait du pasteur jusqu'au paroissien. J'ose dire, ce ne sont que des anges qui viennent à la rencontre de Jacob. Contrairement aux idées reçues, les anges ne sont pas des personnages singuliers qui seraient dans le secret de Dieu, une sorte de conseiller spécial, voire occulte. Ce sont des messagers, seulement des messagers de Dieu. Oh, ce qui n'est pas rien déjà, j'en conviens. Mais jamais la foi d'un ange n'est évoquée dans les textes bibliques. Jamais sa grandeur d'âme n'est suggérée. L'ange ne se distingue pas par le fait qu'il serait un être divin ou supérieur, ou un croyant hors du commun. Il se distingue par le fait qu'il vient bel et bien de la part de Dieu, qu'il est porteur d'un message qui vient de Dieu. Et Maléar, en hébreu, qui est traduit par angelos en grec, nous fait penser bien sûr à la nouvelle angélion, qui lorsqu'elle est bonne devient euangélion, évangile. Mais pas plus que l'ange ne serait un personnage extraordinaire, surnaturel du moins, l'évangile ne serait autre chose qu'une bonne nouvelle. Alors si nous n'accablons pas les anges de qualités que les textes bibliques ne leur attribuent pas, nous constatons que ce qui va conduire Jacob vers Dieu, ce sont des personnes sans autre qualité que celle de nous rapprocher de Dieu. Ce qui est quelque chose, j'en conviens également. L'ange, c'est celui qui nous rend familier de Dieu, de sa parole, de sa volonté, de son espérance. L'ange, c'est celui qui parvient à abolir un peu la distance qu'il y a entre nous et Dieu. L'ange peut faire partie de la communauté des croyants. Il peut aussi en être étranger. Le théologien Karl Barth, qui n'est pas spécialement réputé pour être très libéral en matière de théologie, commence ainsi sa dogmatique, je cite, « Dieu peut nous parler par un athée ou un païen, et nous faire comprendre par ce moyen que la frontière entre l'Église et le monde profane passe toujours ailleurs que nous l'aurions cru. » Deuxième étonnement, donc, Dieu peut nous parler à travers des personnes dont on ne s'attendrait pas à ce qu'elles soient messagers de Dieu. Au fond, la véritable Église, l'Église du Dieu de Jésus-Christ, seul Dieu la connaît véritablement. C'est l'intuition que nous retrouvons dans notre bonne discipline. Dieu parle et se rend présent à travers des personnes dont on serait à mille lieues de penser qu'elles puissent être ses témoins. Il me semble que c'est dans cette perspective que nous pouvons dire que l'Église a un caractère démocratique. Et cela selon le principe du sacerdoce universel. Personne n'est dès le départ disqualifié. Chacun de nous peut remplir une fonction essentielle aux yeux de Dieu. Et pour comprendre cela, j'aimerais vous citer l'histoire que raconte Jacques Gandouin. Jacques Gandouin a été sous-préfet de Rambouillet. Et il écrit ceci. Un jour, alors que j'étais sous-préfet de Rambouillet, j'avais emmené une vieille dame visiter le château. Et comme elle marchait difficilement, je l'avais conduite en voiture et je l'avais fait pénétrer jusqu'à la cour d'honneur dans une partie du parc qui est en principe interdite aux véhicules. Et en descendant de la voiture, il entend un jeune homme d'une trentaine d'années qui s'exclame « Alors c'est ça la démocratie, parce qu'on a une cocarde, on peut tout faire. » Alors le préfet, le sous-préfet, se rend vers cette personne et lui dit « Monsieur, j'ai entendu votre réflexion. Alors écoutez bien ceci. Je suis sous-préfet de Rambouillet. Et à ce titre, il est vrai, je bénéficie de certains avantages que vous n'avez pas. Mais la démocratie, c'est que tout citoyen, donc vous-même, peut devenir sous-préfet de Rambouillet, si l'on a le désir et les capacités. Que résulte-t-il de cette rencontre entre Jacob et les messagers de Dieu ? Quelle conclusion Jacob va-t-il retirer de cette rencontre assez spéciale ? Voilà le troisième étonnement du texte, un étonnement formulé par Jacob en personne. Dieu peut être là où on ne l'attend pas. Cela signifie que Dieu n'est pas nécessairement là où on voudrait, là où on le dit, là où on le pense, là où on le croit. Dieu était là. « Et je ne le savais pas, » dit Jacob. L'Éternel est décidément le Dieu qui nous surprendra toujours, parce qu'il est décidément toujours au-delà de nos attentes, toujours au-delà de nos imaginations et donc, ici même, toujours au-delà de nos rêves. Cela signifie effectivement que nulle église ne saurait détenir Dieu dans le pré carré de ses communautés, ni même de sa prédication, et encore moins, pensez bien, de ses doctrines. Dieu ne saurait être restreint à telle limite humaine, à telle frontière religieuse. Dieu parle, y compris dans des lieux qui ne sont pas consacrés à cela. Et je pense que cela devrait nous inciter à ne pas considérer la foi comme une affaire seulement privée. Oui, la foi en Dieu concerne notre fort intérieur. Mais les bonnes nouvelles de Dieu peuvent être partagées au-delà du cercle familial, dans des lieux de notre vie quotidienne, ces lieux ordinaires qui, a priori, ne sont pas estampillés Bethel, maison de Dieu. Ainsi, frères et sœurs, il y a dans ce chapitre 28 du livre de la Genèse, une très belle page d'Évangile qui parle de ce que nous appelons la grâce, sans théorie sophistiquée, sans référence à des concepts théologiques, mais à travers la belle simplicité d'une tranche de vie ordinaire qui pourrait bien ressembler à la nôtre. Nous y découvrons que Dieu s'intéresse à nous-mêmes, même si nous ne sommes pas très intéressants. Alors même que nous mériterions d'être exclus de la communauté humaine, Dieu nous inclut inlassablement dans l'humanité à laquelle il aspire. Et c'est même à travers ce fraudeur de Jacob que toutes les nations seront bénies. Ce qui signifie, vous le comprenez bien, que nous, a fortiori, pouvons espérer être les artisans du projet de Dieu ici-bas sur terre. En bonne logique, si ce moins que rien de Jacob peut accomplir la volonté de Dieu, nous le pouvons, a fortiori. Et puis c'est là la deuxième découverte. L'Éternel vient à travers toutes sortes de témoins. Sa volonté s'incarne à travers toutes sortes de personnes. Il y a certes les croyants patentés, bien estampillés, qui parfois pensent être les seuls autorisés à parler de Dieu, à parler au nom de Dieu. Mais Dieu, lui, nous révèle qu'il est le seul à autoriser tel ou tel, quel que soit son pédigré, à parler en son nom. Enfin, la troisième découverte qui découle des deux précédents, c'est que Dieu n'est pas nécessairement là où nous l'attendons. Le Dieu attendu se révèle bien souvent de manière inattendue, dans des circonstances inattendues, et peut-être même quand on ne l'attend plus. Car attendre Dieu, au fond, c'est toujours s'attendre à quelque chose de lui. C'est s'attendre à ce qu'il nous dise ce que nous voulons entendre, ce que nous imaginons, ce que nous espérons. Or, Dieu est Dieu, et non pas la somme de ce que nous projetons sur lui. Quand les hommes essaient d'atteindre Dieu, la Bible nous rappelle qu'ils construisent des tours de Babel qui finissent dans la confusion la plus grande qui soit. Quand les hommes rencontrent Dieu, c'est que Dieu les a trouvés, là où ils sont, et là où les hommes ne s'attendaient pas forcément à le trouver. Et c'est alors que nous pouvons vérifier la pertinence de cette promesse divine qui constitue une véritable grâce. Cette parole adressée à Jacob, qui devient pour chacun d'entre nous bénédiction, « Voici, je suis avec toi. » Amen.